J'aimerais que vous imaginiez la scène. Clôture à New York hier soir, S&P 500, nouveau record absolu, Nasdaq, nouveau record absolu. Les semi-conducteurs ont acquis, bien sûr, leur 16e séance de hausse consécutive, du jamais vu depuis mai 1994. On va arriver à une époque où même moi, je ne l'avais pas vu. Ensuite, l'Iran saisit deux porte-conteneurs dans le détroit d'Hormuz. Le Brent franchit les 103$. Et Wall Street regarde tout ça, baille un coup, et se dit « Ouais, bon, c'est pas grave, il y a un cessez-le-feu, non ? Et s'il y a un cessez-le-feu, on peut acheter le marché ?» Bienvenue donc dans le monde merveilleux de la finance en 2026, bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 23 avril 2026 où on peut acheter parce qu'il y a un cessez-le-feu.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Commençons donc par le commencement. Mardi soir, Donald Trump, 47e président des États-Unis et maître incontesté des réseaux sociaux, et qui rapporte plusieurs milliards en une phrase, annonce que le cessez-le-feu avec l'Iran est prolongé. Et je cite « jusqu'à nouvel ordre ». Indéfiniment, pour l'éternité, ou presque, comme les magnolias de Claude François, forever. Les marchés ne prennent même pas la peine de lire les petits caractères en bas du traité, ils interprètent indéfini comme synonyme de bye 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 bye. Résultat des courses, des records, des records, des records, et encore des records. L'Europe, elle, elle fait la gueule parce que les porte-conteneurs qui ont été saisis par les Iraniens entre-temps, on est un petit peu crispé, le Brent à 103, ça crispe aussi, mais à New York, on s'en cogne. En 2026, à Wall Street, on ne veut entendre que les bonnes nouvelles. On est programmé pour traiter sur les bonnes nouvelles. Le reste, ce n'est que du bruit. Comme les marchés restent principalement focus sur le détroit d'Hormuz, il fallait quand même trouver un autre prétexte pour venir au bureau mercredi matin, bien sûr. Le cessez-le-feu, c'était mardi, donc cette fois, le grand rendez-vous de la journée, le grand rendez-vous d'hier, celui qui faisait trépigner d'impatience toute la planète earnings, toute la planète finance, c'était Tesla. Enfin, perso, moi, je trépignais pas du tout, mais si je regarde MarketWatch, Barron's, CNBC, Bloomberg et le Wall Street Journal, le reste du monde, lui, avait les fesses qui dansaient la samba au sujet de Tesla. Le 20 minutes de son côté était trop occupé à commenter le hockey sur glace en Suisse, donc chacun ses priorités. Alors, on va commencer par regarder les chiffres, même si hier soir, je vous ai dit qu'on s'en foutait royalement. C'était pas mauvais, hein, c'était même plutôt bon. Bénéfice ajusté de 41 cents par action contre 34 attendus, chiffre d'affaires à 22,4 milliards contre 22,28 qui était prévu, 358 023 sèche-cheveux ont été livrés, pardon, voitures, plus 6% sur une année, marge brute à 21,1%, au-dessus des 17,7 qu'on attendait, et la cerise sur le cake, un free cash flow positif à 1,4 milliard alors que tout le monde pensait que Tesla était en cash burning de 1,9 milliard. On s'est trompé de plus de 3 milliards sur les calculs de prévision. Bref, en gros, c'est le genre de trimestre pour Tesla qui fait dire aux boules « Je vous l'avais bien dit ». After close, l'action s'est donc envolée de 4%, les investisseurs se frottaient les mains et tout allait bien dans le meilleur des mondes des voitures électriques. Et puis, Musk a ouvert la bouche. Alors, règle numéro 1 en 2026, quand Elon Musk prend la parole, toujours, toujours se méfier. Bon, cette fois, au moins, il n'a pas fait de mouvements chelous avec ses bras et ses mains. Progrès notable, il faut quand même le remarquer. Mais ce qu'il a déclaré hier fait quand même beaucoup plus mal qu'un salut qui remonte à 39,45. Le CAPEX 2026 va exploser à 25 milliards contre 20 milliards prévus. Alors oui, je sais, ça peut paraître abstrait, mais retenez juste un chiffre. C'est trois fois ce qui a été dépensé l'année dernière. Alors, officiellement, ce pactole va financer le pivot vers l'IA, le robotaxi, le cybercab, les puces Dojo, le Megapack 3 et bien sûr Optimus, le robot humanoïde qui, selon Musk, va révolutionner qui va faire la vaisselle à la maison. Combien d'Optimus sortiront d'échelle en 2026 ? Musk répond la main sur le cœur, probablement assez lent au début. La traduction honnête de tout ça, c'est « j'en sais foutrement rien ». Ensuite, il a déclaré que les revenus des robots taxis et du full self-driving ne seront pas vraiment matériels cette année. En gros, ça rapportera pas de pognon. Et attention, c'est mon moment préféré. Les 4 millions de Tesla équipés du hardware Tree ne recevront jamais le FSD non supervisé. C'est quand même ce qu'on leur vend plus ou moins depuis 2016. Donc si vous avez acheté une Tesla en pensant devenir propriétaire d'un robot taxi autonome d'ici 2020 ou 2022 ou 2024 ou 2027, ben, je ne sais pas comment vous le dire avec élégance, mais vous l'avez dans l'os. Mais bonne nouvelle, rassurez-vous, vous pouvez racheter une nouvelle Tesla qui, elle, sera équipée du FSD. D'ailleurs, un cabriolet arrive bientôt, entre maintenant et 2087, je crois. En tout cas, une chose fabuleuse, c'est que chez Tesla, la précision des délais, on ne rigole pas avec ça, on dirait un train suisse. Résultat, l'action qui flambait de 4% en after-close a fait un demi-tour magistral sur route, digne d'un tweet de Trump, clôture moins 2,3%. Mais attendez, c'est pas fini. On n'en a pas fini avec Elon. En toile de fond, il y a SpaceX aussi. L'IPO du siècle, prévu pour bientôt. 75 milliards levés, valorisation qui pourrait flirter avec les 2000 milliards. Plus du double de Aramco en 2019, 3 fois Alibaba en 2014, et l'équivalent de 8 fois Roche aujourd'hui. Et dans la foulée, Musk lâche le mot magique « convergence ». Convergence, en langage Musk, ça veut dire « fusion ». Plus précisément, la fusion Tesla et SpaceX, donc un mastodonte à 3500 milliards de dollars, plus gros que Microsoft, plus gros qu'Amazon, plus gros que le PIB français. Les analystes partagent entre « je pense que c'est probable » et « ça n'arrivera jamais », pourquoi les actionnaires de Tesla accepteraient de se faire diluer. Mais la réponse est simple, parce que c'est Musk. Et oui, et Musk, lui, il se fout complètement de ce que pensent ses actionnaires, tant que ça lui ouvre les portes des 1000 milliards de fortune personnelle, parce que c'est quand même un tout petit peu son objectif. Been there, done that. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, vous pouvez vous asseoir et chausser vos lunettes 3D. Est-ce que vous vous souvenez d'Avis ? Oui, j'en ai parlé depuis 3 jours. La boîte qui loue des bagnoles et qui s'est retrouvée par un hasard absolument prodigieux au centre d'un short squeeze, le short squeeze probablement le plus épique depuis GameStop. 722% de hausse sur 30 jours. Multiplié par 7 sur 30 jours. Deux actionnaires qui détiennent 70% du flottant, des retail traders qui se jettent dedans comme sur un billet de loterie, gagnant, et donc un short squeeze massif. Mais hier, la musique s'est arrêtée, comme sur le Titanic. L'action a ouvert à 775$, elle touche un nouveau record intraday à 847,70, plus 18,7%, tout va bien, et puis, allez savoir, demi-tour sur route, virage à Donald Trump, clôture moins 37,82%, moins 47% depuis les plus hauts intraday. Les chandeliers rouges que vous voyez sur le graphique ici, c'est chaque fois une heure. C'est rien de moins que la pire séance de toute l'histoire boursière, déjà peu glorieuse, d'Avis depuis 1998. Le genre de journée où tu cliques sur le ticker, tu regardes l'écran, tu rafraîchis la page, tu cliques encore, t'as une larme qui commence à couler, tu fermes le laptop et tu vas te coucher. Et puis tu te relèves, tu bois un whisky sec, tu retournes te coucher et tu pries pour que demain, ça aille mieux. Et le plus beau dans tout ça, ben, aucune nouvelle, rien de spécifique, zéro communiqué, pas de révision de guidance, pas de nouvelle émission, rien. Simplement la gravité qui existe encore. C'est tout. La configuration technique qu'on voit sur le graphique de Avis aujourd'hui, ça s'appelle « Je vais tomber comme une pierre ». Et Avis est tombé comme une pierre, et encore comme une pierre, c'est la version polie. Et comme la hausse s'est faite sans palier, sans respiration, sans rien, il n'y a aucun support technique en dessous. Traduction, si ça lâche encore, je réponds plus de rien. Pendant ce temps, à l'autre bout du globe, tôt cette nuit, les marchés asiatiques ont ouvert en fanfare. Champagne, 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 champagne et cotillon et re-champagne. Le Nikkei a touché les 60 000 points pour la première fois de son histoire. C'est magnifique. Et puis, il y a quelqu'un qui a retiré l'échelle. À l'heure où je vous parle, le Nikkei est en baisse de 1%, Hong Kong aussi, la Chine recule de plus ou moins 0,8%, SK Hynix annonce des profits multipliés par 5 grâce à, devinez quoi, l'intelligence artificielle et les data centers. Superbe nouvelle, non, c'est génial. Bon, le titre recule légèrement et le Kospi perd 0,5%. La traduction officielle, évidemment, c'était largement dans les prix, on le savait. C'est la phrase magique qu'on sort quand on ne sait plus quoi dire. Et puis, bien sûr, encore et toujours, il y a l'Iran. Parce qu'il y a toujours l'Iran. Trump a prolongé le cessez-le-feu, oui, on en a parlé. Quelques heures plus tard, Téhéran saisissait deux navires dans le détroit d'Hormuz. Après le cessez-le-feu, apparemment. Parce que cessez-le-feu, apparemment, en persan, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose qu'en anglais. Et cerise sur le baklava, ils accusent les Américains dans la foulée. Oui, ils accusent en disant que bloquer les ports iraniens, c'est déjà plus un vrai cessez-le-feu. Soyons clairs, la situation ressemble au divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Hein. À un moment, il faut quand même arrêter d'insister, de faire croire que ça va fonctionner. Vaut mieux se foutre sur la gueule proprement, une bonne fois pour toutes, et en finir. Tant que c'est moi qui garde le domaine qui fait du rosé. Bref, le Brent est à 103$ ce matin, le WTI frise les 95$, le Détroit est toujours bloqué, on nous dit sans arrêt que ça va pas se rouvrir comme ça, Shanghai, Hong Kong, l'Australie, Singapour, tout est en baisse entre 0,5 et 1%, et comme dit le vieux proverbe, record du soir, gueule de bois le matin, et cessez-le-feu qui cesse de fonctionner avant même d'avoir commencé. Ce matin, l'or est à 4720$, le Bitcoin frise les 78 000, les bonds ne foutent strictement rien. Et pour les quelques rescapés qui s'intéressent encore à la macro, le PMI manufacturier japonais atteint son plus haut depuis 4 ans, porté, ironie suprême, par des préoccupations d'approvisionnement liées au Moyen-Orient, quand le malheur des uns fait le PMI des autres. Revenons encore une toute dernière fois à Tesla. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé, mais il faut quand même que je dise un truc important entre nous. Hein, parce que pendant que Musk nous vend Optimus, le robot taxi et le rêve, et du rêve, un analyste de JP Morgan, un peu tout seul dans son coin avec sa calculatrice, bah, il nous a rappelé un petit détail. En 2022, Wall Street tablait sur 1,4 million de Tesla livrés au Q1 2026. 4 ans plus tard, on en a livré 360 000 au Q1 2026, un quart des attentes. Et pourtant, l'action vaut encore 50% de plus qu'au pic des livraisons de juin 2022. Oui, parce que, oui, faut comprendre, parce qu'en fait, Tesla, c'est pas une boîte qui vend des voitures, c'est plus une boîte qui vend des voitures. Tesla, c'est une boîte qui vend du rêve. Oui, du rêve, des robots, des taxis qui bossent à votre place. Et l'analyste en question a un objectif de cours à 145$, soit la moitié plus bas. Mais personne ne l'écoute parce qu'il fait beaucoup moins de bruit que Musk et qu'il n'est même pas dans la liste des 3000 premiers du classement chez Forbes. Mais le problème, c'est que même les plus optimistes dans le marché n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce que vaut vraiment le business futuriste de science-fiction de Tesla. RBC parle de 840 milliards, Morgan Stanley vise les 1570 milliards, c'est déjà le double, et Deutsche Bank pense que rien que les robots, ça vaut 400 milliards. Chacun y va donc de son délire perso, mais bien malin qui pourra dire vraiment ce que voudra Tesla un jour. En fin de compte, personne ne sait combien vaut Tesla, parce que personne ne sait vraiment ce qu'est Tesla. Est-ce que c'est une caisse qui fait le bruit d'un sèche-cheveux et qui vieillit aussi bien qu'une influenceuse à Dubaï, un data center roulant, un robot, une religion? Sans doute que c'est un peu tout ça à la fois. L'action aujourd'hui se paye 190 fois les earnings 2026 estimés, des earnings qui, soit dit en passant, sont en train de baisser. Mais ça, on s'en cogne. C'est Elon Musk, donc forcément, à la fin, ça monte. D'ailleurs, pour dire le niveau de passion qui se déchaîne quand on parle de Musk, il y a même des gens qui parient aujourd'hui sur Polymarket que Musk sera président des États-Unis en 2028. Alors qu'il n'est même pas né aux États-Unis et que la Constitution l'interdit formellement. On a déjà eu l'histoire avec Schwarzenegger, mais c'est pas grave, on parie quand même sur Musk. Comme disait l'autre, il y a de plus en plus de cons chaque année, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà arrivés. Parlons maintenant un instant de la logique en vigueur dans ce bull market. Hier soir, IBM s'est pris 7% dans la gueule after close. Pourquoi? Parce que leurs revenus software n'ont cru que de 11% à 7,1 milliards. Le consensus tablait sur 7 milliards. Ils ont donc battu les attentes. L'action perdait 7% parce qu'ils n'ont pas assez battu les attentes, apparemment. ServiceNow, de son côté, s'est pris 12,6% dans la gueule. Le CRIM, c'est une guidance à une marge opérationnelle 2026 revue à 31,5% au lieu de 32%, un demi-point de correction sur la marge, et l'action perd un huitième de sa valeur. Bienvenue dans le monde merveilleux des SaaS en 2026, où le moindre éternuement équivaut donc à une décapitation boursière. Et ce soir, c'est le grand soir, Intel, l'action est en hausse de 78% depuis le 1er janvier parce que tout le monde s'est remis à croire à la renaissance du mastodonte. Mais attention, parce que certains analystes commencent à dire que le titre est allé beaucoup trop loin, beaucoup trop vite par rapport à la réalité. Alors on verra ce soir si la réalité accepte de rattraper le cours ou si, à la sauce Wall Street 2026, on continue d'acheter l'idée plutôt que les chiffres. Voilà, une journée de plus est passée, une nouvelle commence, rien n'est réglé, mais des records historiques tombent quand même. Un cessez-le-feu qui cesse avant même d'avoir commencé, un Elon Musk qui bat ses chiffres, qui explose son capex, qui promet des robots, qui enterre le FSD de 4 millions de clients et qui repart avec un moins 2,3% en guise de punition. Un short squeeze sur Avis qui finit en baisse de 37% sans la moindre nouvelle, juste parce que la gravité existe encore. Et quelque part, dans le détroit d'Hormuz, c'est toujours le bordel. Le monde merveilleux de la finance version 2026, c'est ça, on achète le rêve, on ignore la réalité, on sanctionne le moindre écart à la perfection et on appelle ça de l'investissement. Bonne chance pour Intel ce soir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Enfin, sauf si vous m'aimez pas. Hein. Si vous m'aimez pas, commentez-la pas, c'est pas grave. Pour le reste, on se voit demain, vendredi. Ensuite, c'est le week-end et je me demande déjà ce que Trump nous réserve comme tweet ce week-end. Très belle journée à tous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.